RMC, la haie, l'amour et vous.
Et c'est reparti pour cette deuxième heure. En Love Conseil, je vous parlerai des lieux les plus érotiques. Peut-être que ça pourra vous aider à retrouver le désir, puisqu'on a beaucoup parlé du manque de désir dans cette première heure. Et puis tout de suite, on va aborder la question de la voix. C'est normal dans une radio, hein, parce que c'est par la voix qu'on communique. Et comme je le disais tout à l'heure, Agnès Auger, en vous présentant au début de l'émission, je disais que lorsque j'entends un auditeur, dès les premiers mots, grâce à sa voix, j'ai beaucoup d'indices. Et vous le dites d'ailleurs hein, dans votre ouvrage, la voix traduit beaucoup nos émotions. On se révèle énormément par notre voix, beaucoup plus qu'on l'imagine.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément mettre un visage, mais en tout cas, on a une image mentale colorée par la voix, effectivement, qui nous donne des repères et qui correspondent aussi à des critères sélectifs inconscients, parfois, qui nous permettent d'entrer en relation avec la personne.
Et alors, vous dites qu'on ne peut pas mettre une image, et ça c'est vrai aussi, parce que quand on découvre quelqu'un d'abord par la voix, on se fait une idée de son physique, et quand on rencontre la personne, c'est rarement totalement en corrélation avec l'idée qu'on se faisait de son physique. Pourquoi ?
Parce qu'on rentre en contact avec l'intériorité de la personne, et qu'à partir de là, on se fait une image à partir d'un filtre qui est notre propre carte mentale. Mais voilà, c'est une vision et c'est quelque chose d'imaginaire. On met un visage sur une voix, mais ça, c'est complètement personnel. Et voilà, ça n'a pas... Enfin, parfois on peut être agréablement surpris, parfois c'est le contraire, mais de toute façon, ce qui persiste, c'est la communication et c'est pas l'apparence.
Oui, c'est d'ailleurs de plus en plus de gens maintenant se découvrent d'abord par Internet, donc là il n'y a même pas la voix, et ensuite ils se parlent par téléphone avant de se rencontrer.
Voilà.
C'est nouveau ça.
Oui, c'est les nouvelles façons de communiquer, bien sûr. Les gens sont soumis à des nouvelles technologies. Enfin, en tout cas, il est vrai que...
Mais en tout cas, je vous dis ça parce que vous qui êtes orthophoniste, et donc qui aidez les gens à mieux éduquer leur voix, peut-être qu'ils devraient venir vous voir avant de s'inscrire sur un site de rencontre pour justement avoir une voix plus proche de ce qu'ils sont et moins...
Alors les gens, ils consultent souvent parce qu'ils ont un problème avec leur voix. Mais tout le monde ne consulte pas parce que la voix, c'est un domaine qui pourrait être considéré comme réservé aux spécialistes. Or, la voix concerne tout le monde. Et c'est un petit peu dommage que...
Vous voulez dire qu'il faut vraiment avoir un gros problème avec sa voix pour se rendre compte qu'il est nécessaire de consulter ?
Oui, alors pas seulement un problème organique, mais ça peut être un problème lié à des troubles d'affirmation de soi. Dans votre travail, par exemple, si vous avez un poste à responsabilité et que vous estimez pas être crédible parce que votre voix n'est pas assez affirmée, eh bien justement, vous pourrez être amené à consulter. Et pourtant, c'est pas du tout un problème organique, c'est un problème lié à un manque de confiance et d'affirmation de soi.
Donc oui, on n'ose pas poser sa voix, enfin pas être vraiment, enfin appuyer sa voix, si je puis dire, sur la colonne d'air.
Et c'est lié à,
et donc on parle un petit
à
peu,
l'idée, si vous voulez, que vous vous faites aussi de vous-même.
Oui, je comprends bien. C'est quoi une belle voix ?
Alors, une belle voix, c'est avant tout, ça parle avant tout des critères concernant le timbre, la clarté. Et plus la voix a du voile et plus on entend de l'air dans la voix, moins elle est claire. Et après, il y a tout un tas d'autres critères plus précis qui permettent d'évaluer la clarté du timbre. Mais c'est assez subjectif.
Et vous faites aussi une différence entre l'intensité et le débit, c'est-à-dire ?
Et la fréquence aussi. Alors, les autres paramètres qui qualifient la voix sont l'intensité, c'est-à-dire la puissance sonore. C'est-à-dire que les gens... qui sont plutôt réservés ont tendance à parler peu fort Et les gens assez affirmés ont tendance à parler moyennement fort, voire très fort. Enfin, ça peut être aussi agressif si c'est trop fort. Et quant à la fréquence, il s'agit plutôt de la hauteur de la voix qui correspond à notre capacité à moduler en fonction de notre registre de voix parlée.
D'ailleurs, il y a un tableau que j'aime beaucoup dans votre livre avec le comportement passif, le comportement affirmé et le comportement agressif. Et en fonction de son comportement, on n'utilise pas sa voix de la même manière.
Non, tout à fait. La voix, ça correspond à un comportement aussi. Donc on peut lire dans la voix notre comportement et vous retrouvez des indices de confiance en soi et de personnalité dans la voix.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie comme ça pour justement améliorer sa voix sans forcément vouloir absolument devenir chanteur lyrique? Quels seraient les petits exercices qu'on pourrait faire?
Alors, il faut savoir ce qui vous intéresse de travailler dans votre voix. Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce que vous souhaiteriez améliorer? Donc ça passe quand même par une analyse approfondie que j'appelle analyse fonctionnelle, où on va étudier tout d'abord les paramètres objectifs de votre voix. Que j'ai détaillé tout à l'heure, qui sont la fréquence, le timbre et l'intensité, également le débit, mais c'est plutôt là la vitesse qui va s'adapter à la respiration. Et donc, en fonction de ces paramètres qu'on va quantifier, qualifier au départ, on essaye de voir, en fonction de chaque paramètre, ce que vous souhaiteriez améliorer.
Vous parlez beaucoup de la respiration, évidemment, hein. Il faut déjà avoir une respiration plus abdominale, je suppose.
Exactement, il y a des exercices techniques pour apprendre le mécanisme de la respiration abdominale et parvenir à ce qu'on appelle le mécanisme de synergie pneumophonatoire. C'est la capacité à parler en suivant sa respiration et de façon posée.
Et vous conseillez aussi de chanter?
Oui, c'est vrai que le chant, ça a beaucoup de vertus. En tout cas, ça fait partie des exercices qu'on peut proposer pour améliorer les qualités de modulation de fréquence. Ça peut aussi aider les gens à travailler sur la confiance en soi, sur l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, et puis sur la possibilité de développer des capacités vocales.
Donc il faut chanter seul dans sa salle de bain, quand on est dans la voiture, quand on se promène dans la nature.
Il faut surtout se faire plaisir.
Oui, bien sûr. Et alors, Agnès Auger, évidemment, on pense à ces défauts, par exemple, les gens qui zozotent, qui bégayent, c'est dû à quoi?
Alors ça, c'est autre chose. La voix, c'est plutôt une qualité acoustique qu'on va rechercher. Les défauts de langue, c'est des défauts d'articulation. Le bégaiement, c'est encore autre chose. C'est un problème de blocage de la parole. C'est pas tout à fait pareil.
Eh bien, on va donner la parole justement aux auditeurs qui sont avec nous. C'est Sophie qui commence. Bonjour Sophie.
Bonjour Brigitte, bonjour Agnès.
Bonjour.
Je vous appelle, voilà, j'ai une petite question. Les gens qu'on a au téléphone et qui ont une voix sensuelle, ont-ils obligatoirement une personnalité sensuelle?
Alors, je ne sais pas si c'est un lien avec l'émission d'avant. En tout cas, c'est vrai que la sensualité existe dans la voix. On peut jouer de sensualité avec sa voix. Ça peut être un élément de séduction, effectivement.
Mais je crois que ce qu'il faut bien comprendre, en fait, Sophie, c'est que finalement, la voix traduit beaucoup notre émotion. Et quelque part, la sensualité, c'est un état émotionnel. Donc je pense qu'on peut quand même affirmer que quelqu'un qui a une voix sensuelle va être plus sensuel que quelqu'un qui a une voix très...
Disons qu'une voix, oui, une voix sensuelle traduit peut-être une sensibilité particulière, une capacité d'exprimer ses émotions d'une certaine façon, d'entrer en contact d'une certaine façon avec l'autre. Mais voilà, comme Brigitte l'a dit, effectivement, la sensualité, ça se travaille aussi. Ça s'entend, mais surtout, c'est une émotion qui transparaît avant toute chose dans la voix.
Mais je suis d'accord, ça se travaille. Si on veut, par exemple, si on veut travailler sur des services d'audiotel de charme, on a intérêt à améliorer la sensualité de sa voix, par exemple. Et je suppose que ça fait partie des
critères probablement de sélection.
On imagine bien. Une voix un peu autoritaire ne sera peut-être pas sélectionnée.
Oui, donc tout ça se travaille effectivement, mais quand même, ça traduit une certaine sensibilité.
C'est ce que j'imagine, c'est ce que je pense, oui. Effectivement, c'est une capacité qu'on développe à se mettre en relation et à communiquer dans un certain registre.
D'accord, très bien. Ben, je vous remercie beaucoup.
De rien. Je vous en prie, Sophie. Et puis nous avons Zachary qui voudrait vous poser une question aussi, Agnès Auger. Bonjour, Zachary.
Bonjour. Oui, bonjour à toutes les deux. Oui, c'est un sujet que je trouve passionnant et je me suis ça fait longtemps que je me pose la question de l'interaction sur la voix entre ce qui est organique, comme vous disiez, ce qui est de l'ordre du psychologique et puis comme Brigitte le soulignait, de l'émotionnel. Parce que quelquefois on peut se faire des fausses idées, je trouve, à partir d'une voix.
Oui.
Et puis d'un autre côté, c'est vrai que ça traduit beaucoup. Alors, je me posais une question à titre d'exemple, hein, simplement. Quelquefois, on rencontre, par exemple, des femmes qui ont un timbre, une voix qui fait vraiment penser à celle d'une petite fille. Alors, c'est pas évident à interpréter parce qu'il y a la hauteur de la voix qui est un peu aiguë. Alors, est-ce que c'est plutôt organique ou pas? Il y a la façon de parler qui compte. Là, il y a peut-être un peu de psychologique. Enfin, je sais pas. J'aimerais bien avoir votre avis.
Alors, qu'est-ce que je peux vous répondre? Effectivement, la voix, on la décode parce qu'elle exprime l'émotion du moment. C'est-à-dire que la femme qui parle avec une voix de petite fille est probablement dans son schéma cognitif à un niveau où elle n'a pas confiance en elle et où elle se sent petite fille inconsciemment dans l'émotion qu'elle ressent sur le moment où elle s'exprime. Et ce qui est intéressant, c'est que l'instant d'après, elle peut tout à fait changer de voix et changer de registre parce que la voix fluctue en fonction de l'émotion et parce qu'on passe d'une émotion à l'autre tout au long de la journée, la voix va évoluer. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est là que la psychologie intervient. C'est parce que elle va traduire ce qu'on ressent au moment où on s'exprime.
Mais en règle générale, on pourrait presque dire, vous me direz si je me trompe, Agnès Auger, mais qu'une femme qui a une voix comme ça, un petit peu au perché, hein, une voix de petite fille, c'est une femme qui finalement n'est pas tellement en relation avec, j'allais dire, avec son bas-ventre, c'est-à-dire avec la partie inférieure de son corps, et donc avec sa sexualité. On reste finalement... Il y a beaucoup de femmes, d'ailleurs, qui ont une voix qui n'est pas... qui reste plutôt sur le haut, au-dessus du diaphragme, en quelque sorte.
Oui, alors après, ça dépend s'il s'agit d'un trouble de la mue chez la femme, ce qui existe.
Bien sûr.
Et puis, ça dépend aussi si c'est un problème de dysfonctionnement. Donc, le mécanisme, on peut toujours l'améliorer. On peut toujours apprendre à faire différemment et en tout cas faire résonner sa voix plus gravement pour une femme. C'est-à-dire que ça s'apprend et c'est pas irréversible.
Mais en règle générale, souvent, les femmes qui ont une voix comme ça un petit peu aiguë, enfin je parle pas encore une fois des voix de... qui sont des voix, on a tous des voix plus aiguës ou plus graves, mais je veux dire, les voix qui restent un peu au perché sont souvent des voix qui restent avec une respiration au niveau du cœur et non pas au niveau de l'abdomen.
Elles restent en voix de tête, et effectivement, elles ne passent pas à une respiration abdominale. Elles suivent probablement pas tout à fait... le rythme de leur respiration et elles ne savent pas placer leur voix, c'est-à-dire qu'elles utilisent mal l'organe laryngé. Après, les interprétations psychologiques, c'est difficile d'en faire quand on n'a pas discuté avec la personne parce qu'il faut être prudent puis parler en fonction des situations.
Cela dit, il y a également des hommes qui restent avec des voix un peu de tête. Hein.
Alors,
oui, Zachary, si je vous en prie, allez-y. Oui, vous êtes à l'antenne.
Je pensais à autre chose. il peut arriver quelquefois qu'on se retrouve un peu piégé par sa voix. Ce que je veux dire, c'est que on peut, enfin, je prends mon exemple personnel hein, dans certaines réunions que j'ai dû animer.
Oh, vous avez une belle voix, Zacharian. Zacharian. Je dis, vous avez une belle voix, vous. Vous inquiétez
Merci.
Pas.
non, bah, mais écoutez, c'est parce que c'est vous.
Ah, c'est parce que c'est moi qui vous donne une belle voix. Oh, ben, dites donc.
Voilà.
Vous me donnez un pouvoir que je n'ai pas.
Mais si. Non, ce à quoi je pensais, c'est par exemple certaines réunions que j'ai dû animer avec des éléments que je maîtrisais, avec vraiment un domaine technique, comment dirais-je, et d'animation qui était bon, donc plutôt confiant, mais néanmoins avec un certain stress en termes de. Par rapport aux gens qui étaient là, par exemple, ça a pu m'arriver. Et dans ce cas-là, c'est assez pénible parce que je sentais bien que ma voix, comme disait votre invité, avec la respiration, etc., partait un petit peu plus vers le haut. Et du coup, ça joue contre soi à ce moment-là. Il faut vraiment faire un
Mais ça se travaille, justement.
Mais dans ce cas-là, ce que je pense, c'est que c'est plutôt ce que vous vous dites inconsciemment par rapport à votre public. Probablement qu'il y a une pression psychologique particulière quand vous vous adressez à certaines personnes et que vous vous dites des choses dans votre tête qui font que vous n'êtes pas tout à fait en confiance même si vous avez l'habitude de faire cet exercice et c'est très important de relier ça à la peur du regard de l'autre aussi.
Oui, tout à fait, je pense que c'est bien ça. Et j'ai vu des personnes également qui par contre étaient vraiment désavantagées, mais en permanence. Je pense à certaines femmes, alors c'est un petit peu différent de ma question tout à l'heure, même si ça s'en rapproche, ou certaines personnes qui sont bons, vraiment qui ont une très bonne connaissance de leur domaine,
qui perdent leurs moyens.
Qui ont moins de crédibilité, non, enfin en tout cas qui parlent toujours un peu comme ça, un peu trop haut ou un peu stressé, si on peut dire, et du coup qui perdent énormément de crédit auprès de leurs auditeurs, uniquement à cause de leur voix, indépendamment du fond et du contenu.
Oui, ça révèle bien une faille en rapport avec un trouble d'estime de soi et une perte de confiance sur laquelle il faut travailler sur le registre de la psychologie et de l'analyse fonctionnelle avec des données cognitives et comportementales précises selon les situations qui rendent la personne anxieuse. La personne peut avoir une anxiété de performance vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques. Il faut vraiment étudier la situation qui rend la personne anxieuse et puis ensuite travailler l'affirmation vocale. De toute façon, ça passe par une exposition à la situation anxiogène et c'est aussi en s'entraînant et en travaillant sur ses points de faiblesse, y compris en termes de voix, qu'on peut parvenir à améliorer ses difficultés.
D'ailleurs, je précise, hein, dans votre ouvrage avec sa voix aux éditions Odile Jacob, Agnès Auger, dans toute la première partie de l'ouvrage, vous expliquez bien comment ça fonctionne, hein, la voix. Et finalement, c'est presque un muscle. Donc, en effet, ça s'entraîne, hein, tout simplement. On va conclure avec Julien également. Merci en tout cas, Zacharie. Julien, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, voilà. Allez-y, on vous écoute.
Moi, je suis quelqu'un qui écoute énormément la radio et je voulais savoir s'il y avait des critères pour avoir une bonne voix qui passe à la radio.
Alors, c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai répondu à la question de Brigitte Lahaye sur qu'est-ce qu'une belle voix. Je crois qu'encore une fois, c'est à la fois subjectif et objectif. Il faut que la voix soit claire et qu'elle corresponde à des critères de normalité avec ce qui se fait communément, c'est-à-dire calibré en termes de fréquence, en termes d'intensité et en termes de clarté, de vitesse bien sûr, mais ça c'est un paramètre un petit peu à part.
Oui, parce que c'est un paramètre qui se travaille, la vitesse, je suppose.
Tout à fait. Mais les autres aussi, simplement, quand on analyse le timbre plus précisément, il y a d'autres critères plus précis, comme la nasalité, le serrage vocal, les tremblements, enfin, plein d'autres critères qui peuvent être évalués. Il faut au minimum que ces critères-là de timbre se rapprochent le plus possible de la clarté, en tout cas qu'il n'y ait pas de voile et qu'il y ait le moins de défauts possible pour qu'il soit agréable à entendre.
D'accord, mais alors le fait qu'il y ait beaucoup plus d'hommes qui animent à la radio que de femmes. Est-ce que vous pensez que la voix féminine passe moins bien à la radio qu'une voix d'homme?
C'est ce que disent certaines personnes qui sont directeurs d'antenne. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois, oui. Mais je vous laisse répondre. Hein.
Alors non, je pense que c'est plutôt des habitudes.
C'est du machisme, une fois de plus.
Ben, vous savez, il y a encore plus de politiques qui sont aux commandes, d'hommes. Que de femmes qui travaillent en politique et qui nous dirigent. Pareillement, il y a probablement plus d'hommes qui parlent à la radio. Alors, est-ce que c'est parce qu'on accorde plus d'intérêt et de crédibilité à la voix d'homme en termes de sérieux? Parce que la voix grave, ça fait plus sérieux, parce que la voix de femme, c'est réservé à d'autres choses qui nous touchent différemment.
Je
sais pas, faut demander à Brigitte. Alors là.
Je plaisante.
Donc, je pense qu'on s'intéresse pour différentes choses et différemment à la voix d'homme et à la voix de femme. Je pense pas que ce soit une affaire de crédibilité. Je crois que la femme s'intéresse peut-être aussi à des sujets un petit peu différents, qu'elle traite différemment. Mais je crois qu'il faut avancer aussi sur ces notions-là et sur ces critères de sélection.
En tout cas, là où Julien a raison, c'est vrai qu'il y a une majorité d'hommes à la radio, encore plus qu'à la télévision. Hein. Ça, c'est indéniable.
Ah, mais je pense que les femmes passent mieux à la télévision par rapport au physique aussi, non ? Je pense à Victoria Silverstadt, je ne sais pas si je dis bien son nom, mais
voilà, je ne le répéterai pas.
Bimbo,
Je dis, je ne me permettrai pas de le répéter, je ne le ferai pas mieux que vous.
Non, mais voilà, je pense que les femmes qui passent à la télé, en règle générale, c'est plus les bimbos.
Je pense que ça s'appelle un jugement de valeur. Je ne sais pas si je peux vous laisser dire ça. Je crois que c'est juste des habitudes. Et puis peut-être que les femmes sont un petit peu plus réservées et sont moins dans la recherche de pouvoir et d'image que les hommes. Je peux peut-être vous répondre ça, je ne sais pas.
En tout cas, la voix à la télévision prend moins d'importance qu'à la radio, puisque de toute façon, le physique l'emporte souvent sur la voix. Quand on écoute quelqu'un à la télévision, le physique prend énormément d'importance. Et d'ailleurs, ça a piégé quelques hommes politiques à l'arrivée de la télévision, d'ailleurs. Bon, ça, c'est une autre histoire, mais c'était certains hommes politiques qui ont commencé à parler à la télévision, à l'époque, donc, tous deux, vous n'étiez pas nés, Agnès Ogé, mais ils avaient du mal parce que, justement, ils ne maîtrisaient pas du tout leur image.
Oui, c'est vrai que depuis lors, on a beaucoup fait travailler les hommes politiques sur leurs discours et sur leurs intonations. Je pense que...
Mais aussi sur la façon de bouger les mains, la façon de...
Oui, sur la gestuelle.
On voit bien qu'à la télévision, il y a beaucoup de choses qu'on enregistre, alors qu'à la radio, évidemment, on enregistre la voix
et c'est tout
ouais. Évidemment. Merci Julien, en tout cas, de nous avoir posé. Alors, quelle est votre voix préférée à la radio, Julien? Mais même d'après si c'est pas sur RMC, hein, c'est pas grave, on peut tous dire chez nous.
Mais c'est vous, Brigitte, bien sûr.
Oh ben non, ça c'est pas drôle.
Ah si, mais c'est vrai, Brigitte. Mais écoutez, je suis un homme, je préfère écouter parler une femme qu'un autre homme.
Mais c'est ce que je dis qui vous plaît, c'est pas ma voix.
Les deux, je vous assure, Brigitte.
Mais voilà.
Vous avez une voix qui accroche.
Merci.
C'est le sujet qui accroche, je crois.
Merci Julien, merci beaucoup.
Je vous en prie, au revoir.
Au revoir. On va se retrouver dans un instant avec notre caution sexuelle. Merci Agnès Ogé, ça s'appelle avec Vivre mieux avec sa voix, c'est aux éditions Odile Jacob. À tout de suite.
RMC, Brigitte Lahaie, l'amour et vous.
Eh bien, c'est tout en douceur que nous avons commencé notre caution sexuelle cette semaine. Et on va peut-être mettre la barre un peu plus haut avec Florent qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Florent.
Bonjour Brigitte.
Vous avez 34 ans et vous allez répondre à ces 5 questions. Je suis sûre que vous allez très très bien répondre.
D'accord, allons-y.
Voilà, je vous mets tout de suite à l'aise. Je suis sûre de vous. Donc soyez confiants. Hier justement, on a parlé d'une hormone, l'hormone par excellence de l'amour, l'ocytocine. Et la question est la suivante. Quand l'être humain sécrète de l'ocytocine?
Quand il tombe amoureux?
par exemple. Oui, enfin, quand tu tombes amoureux, pas forcément. Hein, c'est...
Un coup de foudre ou...
c'est pourquoi pas, mais c'est pas vraiment. Donnez-moi une autre, une réponse un peu plus, un peu plus fiable. Oui. C'est l'hormone de l'amour par excellence, parce que c'est l'hormone de l'attachement.
L'hormone de l'attachement.
Alors, à quel moment précisément, par exemple, vous vous sentez particulièrement attaché à la femme que vous aimez? Juste après quoi?
Après un acte sexuel?
Voilà, voyez, vous savez. D'accord. Bien. Hein, notamment, oui, juste après l'orgasme, on sécrète de l'ocytocine, ce qui crée donc un grand attachement. Et c'est pour ça que c'est important dans un couple. D'accord. De faire l'amour régulièrement, pour créer de l'ocytocine et de l'attachement. Voilà, voilà, une bonne raison de faire l'amour. Et puis il y a aussi lorsque la femme allaite, lorsqu'elle accouche, et là aussi on voit l'importance de l'attachement. Que la mère soit attachée à son bébé et que le bébé soit attaché à sa mère.
D'accord.
Voilà, c'est intéressant. Hein,
oui, oui.
Donc vous avez déjà une très bonne réponse. Est-ce qu'une femme vierge peut tomber enceinte?
Non.
Ah, bah vous avez tout faux. Malheureusement, ah ouais. Oui. Bah oui, parce que s'il y a...
J'ai déjà entendu, il me semble en plus.
Oui, si on joue à se caresser, à se frotter, et que l'homme éjacule juste à l'entrée du vagin, ouais. les spermatozoïdes sont très 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 malins, et ils arrivent à franchir l'hymen et à grimper jusqu'à...
D'accord.
Jusque-là, voilà, voilà. Bon, bah c'est... bon, vous aviez une chance sur deux, c'était pourtant... Ouais. C'est pas grave. Pourquoi le préservatif n'est-il pas un bon moyen de contraception?
Bon, puis parce qu'il peut se rompre, tout simplement.
Alors oui, il peut se rompre, c'est déjà une excellente réponse. Et puis, vous savez, souvent, quand on le retire, il peut y avoir quelques...
Oui, des traces aussi, oui.
Donc, ce n'est pas un bon moyen de contraception. Il faut le répéter encore et encore, parce que beaucoup trop de jeunes de 15 ans qui commencent leur sexualité pensent qu'avec avec le préservatif, ils sont protégés. Et c'est bien dommage. Pourquoi faire l'amour réduit le mal de tête? Je vous en pose des questions aujourd'hui, Florent.
Non, puis je crois que vous en avez parlé lundi en plus.
Ah, ça, je ne sais pas, mais. J'en ai sûrement déjà parlé, mais ça m'amuse beaucoup, ça. Est-ce que le mal de tête.
J'ai souvent entendu dire que quand on était stressé ou un petit peu mal en point, ça permettait de libérer un petit peu tout ça, donc peut-être le mal de tête. Mais le phénomène précis, je ne connais pas.
Tout simplement parce que ça réduit les tensions des vaisseaux sanguins.
Voilà, d'accord.
Donc quand
les vaisseaux sanguins, d'accord.
Oui, quand on a mal à la tête, c'est souvent parce qu'on est, on a les vaisseaux sanguins qui sont un peu tendus et voilà. C'est pour ça qu'on dit souvent aussi qu'il faut se masser le crâne. Enfin voilà, il y a plein, qu'il faut se détendre.
D'accord.
Et faire l'amour, c'est le meilleur moyen de se détendre. Vous êtes bien d'accord?
Oui, c'est vrai.
Bon, donc voilà.
Mais c'est souvent délicat de le faire quand on est tendu, parce que justement on a du mal à se détendre et à penser à autre chose, et bon, franchir le pas, des fois c'est pas évident.
Ouais, c'est compliqué, il faut se détendre pour pouvoir faire l'amour, qui fait qu'après on sera encore plus détendu. Voilà. Mais on y arrive. Et puis qui a épousé le prince William en avril 2011?
C'est Kate Middleton.
Voilà, là, il n'y avait pas de doute, vous connaissiez la réponse. Bon, ben, c'est pas une très très bonne note, hein, Florent, il va falloir vous détendre un peu. Hein.
D'accord.
Merci d'avoir joué, en tout cas.
Merci, Brigitte.
Au revoir.
Au revoir.
Nous sommes avec Thibaut maintenant. Bonjour, Thibaut.
Bonjour, Brigitte.
Bonjour.
Disons, ça me fait tout drôle de vous parler.
C'est vrai? Autant que ça?
Ouais, parce que ça fait déjà 40 ans que je vous écoute.
40 ans, vous avez 39 ans, qu'est-ce que vous me racontez? Vous écoutiez déjà quand vous étiez dans le ventre de votre maman, c'est ça?
Non, c'est pas ça, mais c'est que je suis tombé sur vous un jour, un peu par obligation, parce que j'étais chauffeur-livreur, je passais dans des coins où je voulais pas perdre la radio pour pouvoir écouter le foot à 16h.
Ouais.
Et donc, je vous écoutais, vous, pour pas, parce que je changeais pas de radio. Donc, je suis tombé sur vous, je vous ai écouté, j'ai continué. Et en fait, je me suis servi de plein de choses que vous avez dit aussi.
Bah, vous avez bien raison, c'est fait pour ça.
Et donc là, je vous appelle parce que je suis très amoureux, mais aussi très malheureux.
Ça rime, c'est bien. Vous êtes un poète en plus.
Bah oui, je trouve que j'écris un peu aussi. Mais bon, ça, c'est pas pour ça que je vous appelle. Non, en fait, c'est que... donc l'amoureuse, elle est partie, bien sûr. Je suis tout à fait conscient du pourquoi de tout ça. Donc, je vous appelle parce que j'ai une question qu'il fallait que je vous pose. Parce que une fois, il y a un auditeur que vous avez appelé qui avait un peu le même problème, que sa chérie était partie et qui voulait qu'elle revienne. Donc, et je vous avais entendu dire que si jamais elle revenait un petit peu vers lui, il fallait qu'il lui dise un truc dans le genre même s'il est malheureux, il est prêt à la laisser libre. Quoi. Mmh. Donc moi, ma chérie, elle est partie en juin, et depuis jusqu'à il y a 10 jours, elle ne me parlait plus, elle m'avait complètement zappé. Donc là, depuis 10 jours, j'ai réussi à lui reparler, je l'ai vue 2 fois, j'ai serré dans mes bras, on s'est embrassé, tout ça, j'ai bien senti qu'elle n'était plus tout à fait là. On s'est parlé, mais bon, en gros, elle est un peu perdue, tout ça, elle a besoin de temps, elle m'a dit, donc j'ai fait un truc et je voulais votre avis, donc voilà. Hier, après lui avoir parlé, après s'être revue, après s'être expliqué tout ça, je lui ai dit que à partir de maintenant, je ne viendrai plus l'embêter, que ce soit par SMS ou sur MSN, ou que voilà, et que parce qu'elle avait des choix à faire et qu'elle avait 20 ans, et que donc si elle m'aimait, elle reviendrait, parce que je lui manquerais, et donc en attendant, je ferai silence, mais je l'aimerais assez longtemps pour l'attendre. Et je voulais votre avis sur ce point précis. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça ?
En tout cas, c'est une jolie déclaration qui l'a certainement touchée. Et vous avez eu raison de la faire. Ensuite, il faut toujours essayer de mesurer quelle est la dimension de l'amour propre chez cette femme.
D'accord, ouais.
Parce que si elle a un énorme amour propre, bah malheureusement, elle est capable de ne pas revenir, même si elle en crève d'envie.
D'accord.
Donc je pense qu'il faut la laisser tranquille, en effet, c'est une bonne initiative. Mais n'hésitez pas à vous remanifester dans un mois, par exemple.
D'accord.
De manière habile, vous êtes poète, vous trouverez comment vous manifester discrètement.
Je comprends. Et une dernière chose, c'est que on en avait déjà parlé, parce que j'ai des problèmes. Mon plus gros problème, c'est que je m'énerve très vite. Et je suis un peu intransigeant. Et donc, on en avait déjà parlé. J'avais parlé de me faire de voir quelqu'un, un psy ou je ne sais pas qui, pour ça. Mmh. Et je crois que j'ai fait une bêtise en le faisant pas pendant que j'étais avec elle. J'ai aussi un problème que je fume beaucoup de marijuana, et donc je crois qu'elle aurait bien voulu qu'elle arrête. Donc depuis là, j'ai entrepris...
Que vous arrêtiez, hein, parce que vous faites un lapsus intéressant. Hein. Elle qui a arrêté, c'est la relation, et c'est vous qui voudriez arrêter le...
Mais moi depuis, j'ai entrepris les démarches psy, le centre de toxicologie, tout ça, là je suis à fond dedans. Donc, et je lui ai dit que qu'elle revienne ou pas, j'irai jusqu'au bout. Donc... J'espère qu'elle y fera attention. Voilà.
Mais écoutez, si vous suivez en plus une démarche pour évoluer, hein, je n'aime pas le mot changer, je préfère toujours le mot évoluer, voilà une bonne raison de la recontacter dans un mois, juste pour lui dire que grâce à elle, vous commencez à être un petit peu différent.
D'accord.
En plus, ça aiguisera sa curiosité.
Donc j'ai eu raison de lui dire que je la laisse tranquille en attendant de ses nouvelles.
Oui, je crois. Et puis surtout que là, vous lui avez dit que vous l'aimez, vous avez fait.
Oui, j'ai écrit, j'ai tout fait.
Vous avez fait ce qu'il fallait. Et puis.
Je veux pas non plus. Je veux pas non plus faire un support. Donc je veux pas. Maintenant, elle sait tout ce que. Elle sait tout. Donc je veux la laisser tranquille. Je voulais savoir si j'avais raison de la laisser tranquille.
Oui, mais vous avez raison de la laisser tranquille. Mais encore une fois, il ne faut pas hésiter à se remanifester discrètement, parce que très souvent, quand même, les personnes se drapent dans leur dignité, comme on dit.
D'accord.
Et donc, il ne faut pas hésiter à refaire le premier pas.
D'accord. Bon.
Merci Thibault.
C'est moi qui vous remercie. C'est cool de vous avoir parlé. Bonne journée et à l'année prochaine peut-être.
Bonne route, au revoir.
Au revoir.
On se retrouve dans un instant avec notre Love Conseil du jour et vos réactions, c'est toujours au 32-16.
RMC, la haie, l'amour et vous.
Et justement, nous avons ce mail qui nous est arrivé, qui parle du couple. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de la construction du couple avec Lucie Vincent hier, et ce mail est à ce sujet. J'ai lu le résumé du livre de Lucie Vincent, et j'ai une question concernant l'amour. Voilà, j'ai choisi mon partenaire il y a 20 ans parce que je savais inconsciemment qu'il serait un bon père. En effet, je pense qu'on ne choisit pas ses partenaires au hasard quand on a envie de devenir mère. Mais une fois la reproduction relation passée, il reste quoi? Une sorte d'amour-amitié. Aujourd'hui, je n'aspire plus à être en couple. Ça veut de moins en moins dire quelque chose pour moi. C'est vrai que j'ai vécu 15 ans avec un homme et après une séparation de ma part, je n'ai plus du tout envie de me recaser. Donc, je rencontre des hommes, je vis avec eux ce que j'ai à vivre. Ça ne dure qu'un temps et je ne me vois plus me mettre en couple. Et pourtant, Brigitte, vous parlez très souvent du couple et j'ai l'impression que cette notion n'est plus le schéma à suivre de nos jours. Alors, je suis pas de cet avis tout simplement parce que je pense que l'homme, quand je dis l'homme, c'est l'être humain, n'est pas un animal solitaire. Et quelque part, le couple, c'est une excellente association. Aussi bien pour la vie quotidienne, mais aussi évidemment pour la vie affective. Et je comprends tout à fait que par moment on ait envie de vivre seul et d'avoir des aventures. Et pourquoi pas d'ailleurs, hein, c'est un bon moment de vie aussi. Ça permet de découvrir beaucoup de choses sur soi, sur l'autre sexe. Mais le couple reste, me semble-t-il, quand même la structure la plus apaisante, hein, pour l'être humain. Mais c'est vrai que c'est compliqué le couple, et c'est pour ça qu'on en parle et qu'on en reparlera encore longtemps, et que mes invités d'ailleurs n'ont pas toujours le même avis sur le couple.
RMC, Brigitte Lahaie, Love Conseil.
Eh bien, faire l'amour dans des lieux érotiques, c'est évidemment un fantasme très courant, bien que les gens préfèrent faire l'amour dans le lit. Quand on fait des enquêtes sur l'endroit où vous préférez faire l'amour, on a 70% de personnes qui préfèrent donc faire l'amour dans un lit, ce qui est assez logique d'ailleurs, parce que c'est quand même l'endroit le plus confortable, le plus approprié. Mais faire l'amour ailleurs, c'est terriblement excitant, et c'est pour ça que je vous propose différents endroits qui pourraient un petit peu vous amuser. Alors, je crois que pour ceux qui sont un petit peu gênés de faire l'amour ailleurs que dans un lit, ce que je conseille, c'est de flirter justement ailleurs, et puis de terminer le rapport juste après ou à un autre moment dans un lit. Alors, par exemple, vous pouvez tout à fait commencer à flirter dans un ascenseur. Alors, l'ascenseur, c'est particulièrement érotique parce que c'est le fait de monter vers le 7e ciel, bien sûr, mais c'est aussi le risque d'être surpris, puisqu'à tout moment, l'ascenseur peut s'ouvrir et on peut se retrouver nez à nez avec quelqu'un. Donc c'est quand même un endroit assez érotique. Alors il y a bien sûr les toilettes, surtout dans un lieu qui n'est pas chez soi, parce que chez soi ça n'a pas grand intérêt évidemment, chez des amis ou dans un lieu public, parce que là aussi on est dans un endroit un peu interdit, mais en même temps on est très protégé dans les toilettes, hein, puisque ça se ferme et on risque pas d'être dérangé. Alors il y a la nature aussi, qui est un lieu qui plaît beaucoup, qui plaît particulièrement aux femmes. Il faut y penser, les femmes aiment flirter ou faire l'amour dans la nature, et tout particulièrement les nuits de pleine lune. Voilà, donc pensez-y si vous avez envie de séduire votre chair et tendre. Il y a également les miroirs qui ont un effet très excitant. Alors là, ce serait plutôt les hommes qui sont excités de faire l'amour devant un miroir. Alors pourquoi pas dans une cabine d'essayage, hein. C'est aussi un lieu interdit où on peut être surpris et qu'il y a des miroirs. Donc là, on a plusieurs paramètres qui sont excitants. Et puis, il y a l'eau. Pourquoi l'eau? Ben, l'eau, c'est quand même notre premier élément. On a pris naissance dans l'eau. Et l'eau, en plus, nous porte. Donc, c'est un endroit qui est tout à fait agréable pour essayer d'avoir des échanges amoureux. Je vous propose même, d'ailleurs, d'essayer dans un bain tous les deux. Ça peut être quelque chose de tout à fait excitant. Mais, en tout cas, n'hésitez pas, toutes les pièces de votre appartement peuvent provoquer un sursaut d'adrénaline, et pourquoi pas devant la fenêtre ou sur le balcon si vous êtes un petit peu exhibitionniste. Et puis je pourrais rajouter au cinéma, en voiture, enfin bon, la liste est inépuisable et je fais confiance à votre imagination. Nous sommes avec Angélique, mais je vais d'abord vous parler de notre pin-up qui visiblement vous plaît beaucoup. Elle s'appelle Titange, et les photos aujourd'hui encore sont particulièrement, j'allais dire douces, en tout cas elles sont très très jolies, et je crois que si vous aimez les fesses des femmes, vous allez être tout à fait servie, parce que on a vu hier qu'elle avait de très jolis seins. Aujourd'hui, je confirme, elle a également de très jolies fesses, et vous pouvez aller la voir sur notre blog. Angélique, pardon, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Angélique.
Vous je avez... vous appelle.
Oui, allez-y, je vous écoute. Oui.
Moi, je vous écoute, excusez-moi.
On va y arriver. Vous avez des douleurs lors de rapports, des rapports sexuels, c'est ça?
Oui. Donc en fait, ça a toujours été comme ça.
Mm-hmm.
Et donc j'ai consulté, enfin j'ai été voir mon médecin. Bon, mon médecin m'a donné pas mal des petites gélules, enfin un mètre, tout ça. Enfin, après, j'ai attrapé aussi beaucoup de mucose à cause de ça parce que ça me donnait beaucoup d'irritation, ça me faisait mal plusieurs jours après aussi.
Mm-hmm.
Donc après, il m'a dit d'aller voir un sexologue. Donc, j'ai été consultée, donc aussi avec mon ami, on y a été tous les deux. Et lui, il m'a dit que j'avais une dyspareunie, enfin, je ne sais pas si je l'ai dit comme il faut.
Une dyspareunie, oui.
Mm-hmm. Et voilà. Et donc, en fait, on a essayé que ça guérisse. Et donc, ça n'a pas marché. Donc, j'ai arrêté d'aller le voir. Et donc en fait,
vous avez toujours vos douleurs, mais vous les avez durant le rapport ou après?
Juste au moment en fait de la pénétration, juste au début, et après ça se calme, donc j'arrive quand même à avoir du plaisir.
Oui.
Mmh. Et mais ensuite quand ils se retirent, j'ai encore mal et puis après c'est irrité, donc par rapport à ça aussi, je prends du gel lubrifiant. Parce que comme ça me fait des sécheresses vaginales, j'ai eu aussi une fissure. Donc à cause de ça,
D'accord. Donc on voit bien que là, il y a quand même quelque chose qui est. Enfin, vos muqueuses semblent quand même agressées, me semble-t-il. Il y a pas qu'une cause psychologique. Vous avez visiblement les muqueuses qui sont irritées et qui donc à la moindre sollicitation sexuelle, à nouveau, ça reprovoque une irritation et on n'en finit plus. Est-ce que moi je vous donnerais déjà deux conseils. D'abord, prendre un savon particulier pour votre hygiène intime.
Oui, ça c'est fait déjà.
C'est fait, j'imagine bien. Il y a des produits maintenant qui sont très très bien pour justement améliorer ces problèmes de démangeaison ou de. Donc est-ce qu'on vous a donné ça aussi?
Oui. Donc j'ai tout ça. J'ai même une crème que je passe après le rapport pour soulager justement les.
D'accord. Et est-ce que vous avez essayé de rester sans faire l'amour pendant au moins 15 jours pour voir si c'était pas un problème de sans arrêt reprovoquer une irritation?
Ben c'est ce que j'ai fait aussi, c'est ce qu'on a fait et c'est toujours pareil quoi.
D'accord. Donc même, mais par exemple, quand vous êtes resté plusieurs temps sans avoir de rapport sexuel, est-ce que la fois où vous avez refait l'amour, vous avez eu les mêmes douleurs ou un peu moins?
Un petit peu moins.
Bon.
Mais toujours cette appréhension, en fait.
Oui, mais c'est là où c'est compliqué parce qu'évidemment il y a une appréhension. Donc vous êtes un peu crispé. Comme vous êtes un peu crispé, ben ça passe pas tout seul et on n'en sort pas. Donc moi, je crois quand même ce qui serait intéressant, c'est que vous arriviez déjà à cicatriser. Hein. Il peut y avoir, je sais pas, il peut y avoir la fourchette qui est un petit peu endommagée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il faudrait déjà que vous soyez complètement à l'aise. Et ça, vous pouvez peut-être vous-même déjà. Est-ce que vous arriveriez à introduire, par exemple, votre doigt pour voir si ça passe bien, si ça vous fait pas mal?
À ça, les deux, il n'y a pas de souci, non, ça passe bien, c'est juste le moment de la pénétration, quoi.
Que vous redoutez, de toute façon. Est-ce que vous avez toujours redouté ce moment-là?
Oui, en fait, oui.
Donc, il y a peut-être ça aussi à travailler. Pourquoi vous redoutez la pénétration? Est-ce que vous avez eu un discours sur le fait que, qu'au départ, ça fait mal?
Ben, non, mais en fait, c'est passé quelque chose quand j'étais plus jeune, donc je ne sais pas, parce que. C'est ça. C'est qu'en fait, quand j'ai perdu ma virginité, j'en ai parlé à ma mère. Et en fait, ma mère en a parlé à mon beau-père qui a une réaction très, très violente, en fait. Ça a été vraiment assez perturbant, mais je pense pas que ça pourrait me perturber quand même à ce point-là.
Ça peut si, malheureusement, Angélique, si vous avez un antécédent, un traumatisme. Et si ça s'est mal passé, qu'en plus on vous a agressé verbalement, c'est-à-dire qu'au lieu de vous rassurer, de prendre conscience que vous avez été victime, on vous a en plus agressé, il est certain que tout ça laisse des douleurs, si vous voulez, des douleurs au niveau du corps.
D'accord.
Hein? Donc moi, je pense, dans ce que vous me dites, Angélique, ce serait intéressant d'en parler à quelqu'un, mais là, il faut quelqu'un de sérieux, pas quelqu'un qui vous donne un diagnostic de dyspareunie, ça veut rien dire. Il faut que vous alliez évacuer cette douleur que votre corps, pour l'instant, transporte encore. Merci en tout cas de votre appel. On va terminer avec notre vote du jour, Émilie.
Eh bien écoutez, 71% des votants sont capables de faire l'amour avec une personne qui a 20 ans de plus qu'eux.
Oh bah c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Ça va rassurer les vieux.
Exactement.
Demain, on sera avec Pierre Panel et nous recevrons également Axel Red qui vient de sortir un album, un cœur comme le mien. C'est superbe et je suis vraiment ravie de la recevoir. Et tout de suite, vous retrouvez Louise pour le foot. Je vous embrasse, à demain.